Eurovision 69.
I dreamt I was a queen in a crimson robe.
Eurovision 69.
A lion with a crown of dust and gold. Someone shut you down and your blood went cold.
Eurovision 69.
Baby, can you wake up? Baby, can you wake up again? So don't let go.
Eurovision 69.
Can be so beautiful.
Bonjour, bienvenue sur le podcast Eurovision 69. C'est évidemment Conchita qui vous accueille avec son dernier single, Heroes.
So let the walls come down and the colors light up the sky.
Bonjour, Aitor de Paris, très content de vous accueillir pour le podcast numéro 4 de la saison 3.
Et bonjour, c'est Fabrice Dinard.
Et c'est Farouk de Paris qui est prêt à dire plein d'horreurs pour ce dernier podcast de l'année 2014.
Alors, t'en parlez-nous un petit peu de Conchita.
La Conchita, elle est fabuleuse. Moi, j'adore son nouveau single. Il est un peu plus pop, c'est ce que j'ai écrit sur l'article quand il est sorti, que Rise Like a Phoenix. À mon avis, c'est plus facilement vendable. Est-ce qu'elle va réussir à le faire pour autant? J'en sais rien, vu l'état de l'industrie du disque. Mais je trouve ça très bien. Et le clip, en plus, est super.
C'est une meilleure chanson que Rise Like a Phoenix pour moi. C'est un chef-d'œuvre, on va dire ça comme ça.
Attention, parce que il faut dire que moi j'avais préparé un petit peu le planning du podcast et normalement c'était pas ça à l'ouverture du podcast. C'était Fabrice et Tan qui m'ont demandé. Et Fabrice m'a dit que c'était la meilleure chanson de l'année 2014. Imagine.
On n'est absolument pas dans l'excès, hein. C'est une belle chanson, ça s'écoute bien. De toute façon, je pense qu'elle aurait fait n'importe quoi, vous auriez adoré. Je suis sûr que Ethan pouvait déjà écrire son article 3 jours avant, sans se connaître la chanson, ni avoir vu le clip.
C'est vrai, je pense.
Et j'étais assez étonné, Ethan. Tu étais l'un des premiers médias à avoir mis en ligne un article sur le clip de Conchita.
Ah, mais j'étais au taquet, hein.
Ah, ouais.
Bon. En fait, ces podcasts, c'est une des rares fois qu'on ne va pas parler sur une prochaine finale nationale. On parlera peut-être des choses qui se sont passées les derniers jours, mais c'est surtout du quoi un podcast news, puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées les dernières semaines et on n'a fait aucun flash info depuis qu'on a démarré en septembre. Bah là, on va vous mettre tout en comprimé, comme ça vous allez tout savoir, pas de doute, et comme ça vous allez arriver à Noël avec votre tête, non? C'est ça?
Ouais, non mais ça va être super. Nous allons passer maintenant à la première partie de ce podcast et nous allons partir à Malte. Malte qui était sans doute le point Eurovision du moment. Là, tout le monde était à Malte, à la fois pour le junior et pour la sélection maltaise qui s'est déroulée sur deux jours, les 21 et 22 novembre. Et je peux vous annoncer la grande nouvelle. Amber a donc enfin remporté la sélection maltaise pour le concours Eurovision. La cinquième fois fut donc la bonne. Ce n'est pas une simple victoire, c'est un triomphe parce que Amber a reçu d'abord les 12 points du télévote ainsi que les 12 points des 5 jurés professionnels. Oui, parce qu'en fait, à Malte, le télévote ne compte pour que 1/6 du total des points. Donc si vous comptez bien, ça fait 72 points pour Amber et son titre Warrior, c'est-à-dire le maximum de points possible. Et ça, c'est extrêmement rare.
Become a warrior.
La seconde de cette sélection maltaise, c'est Christabel avec Rush, qui est donc quitte pour revenir en 2016. Et le troisième, c'est Glenn Vella, mais enfin pour lui, c'est pas trop grave parce qu'il a déjà participé au concours en 2011. À noter, lors de cette sélection maltaise, que les Ecclesia Sisters, les bonnes sœurs, dont Fabrice est le fan numéro 1, ont terminé 7e.
Et le seul
avec... On termine 7e avec 23 points, dont 10 du télévote, ce qu'on avait tous imaginé. Et que Gianluca Bezzina et son groupe Lawa, qu'on pourrait appeler la Bezzina Family, terminent avant-dernier. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la victoire d'Humber n'est pas vraiment une surprise, puisque lors du dernier podcast, je vous annonçais qu'elle avait de grandes chances de gagner cette sélection maltaise. Le titre est efficace dans le plus pur style Eurovision. Malte, à mon avis, peut espérer un top 10, voire plus. Pour la victoire, c'est pas pour le moment, selon moi, envisageable, parce qu'il manque à Warrior ce petit plus, ce petit grain de folie qui fait un gagnant. Mais... De toute façon, les Maltais vont retravailler la chanson pour Vienne et on peut leur faire confiance, ce titre ne pourra qu'en être meilleur. Votre avis, les amis?
Bah, moi, je voudrais dire déjà qu'au moins, on n'aura pas des bonnes sœurs. Déjà, c'est la première chose parce que j'avais très peur que tous les voix se dispersent parce que pour moi, il y avait des chansons qui étaient très bien et que finalement, les bonnes sœurs gagnent. Ils sont finis deuxième du télévoté, attention. Mais Humber a gagné les télévotes, donc heureusement. Mais moi, je suis pas content avec la victoire d'Humber, même si je reconnais qu'en live, c'est de ses performances que tu vois et tu dis, ah, c'est pas mal parce qu'il a très bien fait. Mais c'est la chanson qui me laisse un peu, je l'avais donné un 3 parce que c'est ça, une chanson qui me plaît, mais que j'ai pas envie de réécouter, non? Et ça, c'est le problème. Pour l'Eurovision, il faut avoir envie de l'écouter. Enfin, Humber, il est un bon artiste. Et comme vous savez que cette année, Malte applique la loi belarusse, c'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on a choisi les chanteurs et les compositeurs. Par contre, la chanson peut être changée. Peut-être il change, hein, on sait jamais.
Moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt bien fait. J'aime assez la chanson. Mais je reste très déçu pour Laurence Gray. Vous allez tous vous mettre à hurler. Mais j'adorais la chanson de Laurence Gray. I will say it slowly, I will
whisper softly in your ear tonight. C'est pas possible, Ethan, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne te reconnaît plus.
Mais vraiment, moi, c'est une chanson qui me file des frissons.
Aïe, 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 c'était un supplice.
Ouais. Franchement. Bon, cette finale maltaise, elle était assez étonnante, surtout pour le résultat de la famille Bezzina, qui est arrivée, je pense, Farouk m'a dit avant-dernier, c'est ça?
C'est ça.
J'ai pas trop compris ce classement-là. Heureusement que j'étais là au dernier podcast pour relever le niveau, surtout pour les Ecclesia Sisters, parce que sinon, elles ne seraient pas figurées au classement d'Eurovision 69.
Oui, on allait les citer de toute façon.
C'est parce qu'elles ont chanté faux, les bonnes sœurs, du début à la fin.
Terriblement faux.
Oui. Elles auraient plus de voix, elles auraient remporté facilement cette finale nationale.
Et attends, Fabrice.
On chante pour les enfants, les enfants, ils sont beaux, ils sont gentils.
J'adore. Et bon, par contre, pour Amber...
Fabrice,
oui. Oui.
Non, il y a quand même un truc de dingue. Que le télévote ait donné 10 points aux Ecclesia Sisters, bon, on s'en doutait un petit peu, mais oui, que les membres du jury aient aussi donné des points, alors là, ça, c'est ce que, comme je dirais, ça m'a troué le cul, quoi.
Moi aussi. T'as raison, ouais. Ça, c'est le plus étonnant, hein.
Parce que c'est une magnifique chanson, c'est tout. Écoutez, ça, il aime bien Laurence Gray, donc moi j'ai le droit d'aimer les Ecclesia Sisters.
Moi, je trouve honteux, par exemple, que 12 Baker Street, la chanson favorite de Farouk, mais c'est, je me moque pas parce que moi j'aimais bien aussi. Et il est resté avec 0 points, même du jury. Ouais.
Mais elle avait des dents tellement affreuses, cette pauvre chanteuse, que c'était pas possible.
C'était pas possible de l'emmener à Vienne.
C'est quand même pas la première chanteuse à grandes dents qui participerait au concours. Hein.
Maciel, elle a gagné avec des gros dents, je peux vous dire, pour l'Espagne.
Non, mais pour revenir aux Ecclesiastesters, moi je trouve complètement dingue que des jurés soi-disant professionnels aient donné des points à ça. C'était une horreur, à chanter faux, la mise en scène était minable. Enfin, vraiment, c'était quoi? C'était même pas digne d'une kermesse d'église, quoi. Faut arrêter un petit peu, là.
Ça se trouve, ils ont eu peur d'aller à l'enfer pour pas voter les bonnes sœurs, je sais pas.
Non, si l'an prochain, les bonnes sœurs remettent une chanson à peu près pareille, mais en ayant pris des cours de chant, je pense que ça passe.
À Malte, oui, en tout cas.
Voilà, et puis, bon, Malte, on a l'habitude, c'est toujours les mêmes qu'on voit, donc on les reverra l'an prochain. Mais il y a un côté sympa chez les bonnes sœurs, voilà. Et puis c'est vrai que Maciel, elle a de grandes dents. J'ai vu une vidéo d'elle il y a pas longtemps. C'est impressionnant.
C'est vrai.
Bon, il faut dire en que... tout cas, oui. Attends, Amber, je disais Amber, je m'inquiète un petit peu parce que c'est une chanson qui, au bout de 2-3 écoutes, elle me saoule un petit peu, cette chanson. Donc j'espère qu'ils vont vraiment bien la retravailler.
Oui, c'est vrai.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'Amber, je l'avais dit l'année dernière déjà sur elle, elle avait participé comme choriste des chanteurs qui justement il apparaît sur notre podcast précédent, la section des Farouk. Ça s'appelle comment ton chanteur là, Farouk?
Kolkaleja,
voilà. Bah, elle était choriste et elle a horriblement chanté. This is the night, un truc comme ça. Je vais vous mettre là, vous écoutez, regardez. Et c'était horrible, donc j'ai un peu peur de ce qu'elle va faire à Vienne, par contre.
Une autre annonce récente, c'est l'ex-république yougoslave de Macédoine qui a décidé d'envoyer, pour la représenter à Vienne, un chanteur qui s'appelle Daniel Kajmakowski. Il a 31 ans et il a remporté le premier X-Factor Adria, donc X-Factor pour l'Adriatique. C'est-à-dire que ça couvre la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie. Dans ce programme, il faisait partie de l'équipe de Zeljko Joksimović, que tout le monde connaît bien, et qu'il a lancé après sa victoire, puisqu'ils ont fait tous les deux un duo, très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Skopje Beograd, qui est sorti le 28 mai dernier. Daniel a donc participé au Skopje Festival, qui sélectionne le candidat macédonien pour le concours le 14 novembre dernier. Et il l'a largement remporté avec un titre qui s'appelle Lisha Esenki. Ce titre avec lequel il pourrait défendre les couleurs de la Macédoine en mai prochain à Vienne. Je dis pourrait parce que ce n'est pas encore confirmé. Le titre pourrait changer. Les auteurs de cette chanson sont Daniel, bien sûr, mais aussi Joachim Persson et Aleksandar Miteskić. Mais en fait, on se demande si la télé macédonienne ne va pas approcher Zeljko et profiter de sa proximité avec Daniel pour lui faire composer un titre que son protégé pourrait défendre au concours. Donc, on attend le titre. Daniel, en tout cas, est très populaire dans la région de toute l'ex-Yougoslavie. Et donc, normalement, s'il atteint la finale, il devrait cumuler pas mal de points. Hasard de l'histoire, il a vécu à Vienne, puisque il avait 7 ans quand il est venu habiter avec sa famille dans la capitale autrichienne. Et c'est donc là qu'il va représenter son pays, la Macédoine, pour l'Eurovision. On peut noter aussi qu'avant sa participation à X Factor, il avait quand même une petite carrière, et il avait écrit notamment en 2011 une chanson pour Carolina. Ça s'appelait Nese Vrakas. Et c'est vraiment très chouette, hein. Ça a d'ailleurs été un tube dans tous les Balkans. Donc, pour conclure cette sélection macédonienne, je vous dirais que je suis très déçu que mon chouchou, Dimitar Andonovski, qui interprétait le titre Sestoti Vetiv, n'ait pas été choisi. Il a terminé quatrième malgré une superbe et magnifique prestation et c'est super injuste. Mais bon, qu'est-ce que vous vouliez faire contre le poulain de Zeljko? Il n'y avait rien à faire.
Bon, moi je vais donner mon avis. Encore une chanson des Balkans que j'aime pas, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Un, déjà. J'espère qu'ils vont changer. C'est une bonne nouvelle, ce que tu viens de dire, je savais pas. Et les gens qui ont réussi à regarder la finale, moi j'ai pas pu parce que ça s'est coupé tous les 5 secondes. disent avoir beaucoup aimé à Tamara Todeska, par contre, qui a fini deuxième, mais je pense qu'en réalité, il avait gagné et il y avait un truc un peu bizarre là, je sais pas si c'est les jurys, les télévotes, il y a un truc où il avait gagné, et puis bon, enfin, finalement, c'est deuxième.
C'est la Macédoine. Donc.
Ouais, et en fait, c'est Tamara, je vous rappelle, c'est la sœur de Tiana, de l'année dernière, donc c'était, et qui avait déjà participé en plus en 2008, si vous vous souvenez bien.
Oui, bon, donc, c'est peut-être pas plus mal que ce soit Daniel qui vienne.
Hein. Ben, moi, la chanson, je la trouve aussi un peu ennuyeuse, donc l'une et l'autre. Donc, j'ai même pas eu le courage d'écouter les 20 chansons de cette finale. Hein. J'ai pas eu le courage.
Non, mais il faut reconnaître, pardonnez-moi de vous interrompre, il faut reconnaître que pour ceux qui ont regardé la sélection macédonienne, c'était absolument insupportable. On avait l'impression de revivre un concours des années 80-90 avec un orchestre et tout. C'était quand même très, très, très mauvais et le son n'était vraiment pas bon du tout. Ethan.
Oula, mais moi j'ai rien à dire sur ce gars-là, sur cette chanson. C'est d'un inintérêt affligeant.
Bon, cette chanson, effectivement, ils peuvent pas la mettre à Vienne, c'est pas possible, pas possible. Je pense que, comme il y a Di Faro qui est très bien dit d'ailleurs, Zelko, et puis vous savez, celui qui chantait en 2013 là, ouais. Avec une vieille dame là, oui. En duo, Lozano. Il faut savoir que ils sont amis avec Lozano, donc ils ont peut-être profité de leur expérience commune et puis proposer quelque chose d'autre. Mais de toute façon, ils peuvent pas laisser ça, c'est pas possible. Et quant à cette sélection macédonienne, il y a une chose qui m'a vraiment qui a retenu mon attention, c'est Calliope, parce qu'il m'a fallu 10 minutes pour la reconnaître. Elle s'est tout refaire faire, les yeux, les pommettes, le nez, le menton, les joues et la coupe de cheveux. Elle a gagné 20 ans.
Moi, je l'ai reconnue par sa belle voix, par contre.
Ouais, ta voix, on la reconnaît.
Mais c'est vrai, seulement par la voix. Hein. Physiquement, ça pourrait être un travello, je l'aurais pas reconnu, quoi.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez étonnant. Moi aussi, je me suis dit, mais elle était annoncée, mais je me dis, elle va venir quand, Calliope? On en a marre de cette vieille qui chante. Calliope! Non, mais en tout cas, je pense que Daniel a gagné le X Factor. Il a l'air d'être assez populaire là-bas. Je dirais que méfiez-vous.
Oui, il est populaire, hein, je le confirme.
Donc, ça veut dire qu'on connaît deux chansons de 2015 et on n'est pas sûr encore qu'aucune des deux soit une chanson de 2015. Donc.
Si, la chanson de Malte, si, je pense.
Non, la chanson de Malte, justement, ils ont mis cette année la loi, enfin la norme, qu'on peut la changer si besoin.
Ouais, ben, Aitor, tu n'imagines quand même pas qu'ils vont changer une chanson qui a terminé première de la sélection maltaise en ayant cumulé tous les 12 points.
Ouais.
Ça veut dire que là, il y a un problème.
Ça c'est un peu honteux, ouais, quand même.
Non, la chanson macédonienne, ils doivent que la changer, ils peuvent pas faire autrement. On s'en va aux Pays-Bas ?
Ouais, s'il te plaît.
Yeah, et nous voilà maintenant aux Pays-Bas. Trinche, on dit ça Trinche. Voilà, c'est celle qui va représenter les Pays-Bas en 2015. Trinche Oosterwijk. Bon, intéressant quand même de savoir que les Pays-Bas sont quand même dans une logique de gagnant, on va dire ça comme ça. En 2013, ils sont arrivés 9e avec Anouk. En 2014, ils sont arrivés 2nd avec les Common Minutes. Et en 2015, c'est marrant, on y met Trincha, née en 73, donc elle a 42 ans, elle est déjà assez vieille. Elle a 13 albums à son actif, dont au moins 10 de reprises. Tout ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que le titre sera visiblement composé par Anouk. Que dire de plus ?
Bah, je pense qu'on peut pas dire grand-chose de plus. En fait, c'est assez bizarre, effectivement. Beaucoup de ses albums ont été bien classés dans les charts. Son disque d'or au disque de platine. Mais quand vous cherchez un petit peu sur YouTube, bah, vous trouvez pas grand-chose. Vous trouvez effectivement beaucoup de reprises. Et le truc le plus étonnant, c'est que finalement... Deux des clips d'elle sur YouTube ou qui ont le plus de vues, ce sont des clips où elle fait des featuring, des apparitions. Il y a un clip avec un groupe de rap qui s'appelle The Opposites, un espèce de groupe comme un petit peu, c'est un petit peu l'équivalent d'IAM mais aux Pays-Bas. Et puis elle est aussi en apparition avec un chanteur qui s'appelle Marco Borsato, avec un duo qui est pas mal d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une chanteuse un petit peu folle qui a pas l'air de, à part des reprises, qui a pas l'air de faire grand chose, quoi. Elle a été coach sur The Voice aussi.
Ça change tout.
Et moi, j'ai pas une avis très, très tranché. Comment son nom, là? Tranché. Parce qu'en fait, je vois bien que c'est une chanteuse reconnue, là, là, là. C'est très bien, comme Anouk, comme Linette. Mais moi, j'étais assez fan des finales nationales hollandaises aux années 2000. Et je le regrette un petit peu, en fait. Je voudrais bien les revoir parce qu'il y avait toujours des chansons sympathiques. Donc, bravo d'envoyer des artistes avec du succès pour donner un peu de niveau au concours et dans le pays et tout ça. Mais moi, je voudrais que l'année prochaine, il revienne en finale nationale, franchement.
Moi aussi, j'ai toujours Chocolat 2 comme sonnerie sur mon portable. J'adorais. Pour revenir à Trintjeu, effectivement, elle est coach du The Voice et du coup, elle doit être assez connue aux Pays-Bas. Si le The Voice aux Pays-Bas a toujours le succès qu'il avait au départ, c'est signe de reconnaissance, enfin de connaissance en tout cas. Sinon, son activité perso récente, c'est au sein d'un groupe, on va dire, les Ladies of Soul, dans lesquels il y a également Edilia Rambley et Glenys Grace, qu'on connaît, nous, très bien. Oui, oui, oui. Et donc, les fameuses Ladies of Soul, elles font une grande tournée hommage à Whitney Houston depuis sa mort.
D'accord.
De toute façon, est-ce que tu viens de dire qu'elle était très liée à l'Eurovision déjà, parce que c'était avec les chanteuses que tu viens de dire,
oui,
l'Eurovision.
Oui.
Ah, donc c'est elle qui a dû le dire, vas-y.
Ouais, non, mais les Pays-Bas sont sur une dynamique, ils se disent que finalement c'est peut-être mieux de faire des choix en interne, et puis ça a apporté ses fruits sur les deux dernières années en tout cas.
Flash Info Eurovision 69.com.
Walkalou, Walkalou, baby, guay, guay, agaï, aïe, guay, agaï, aïe. Le 11 décembre, on a présenté la chanson qui sera interprétée par Trincha à Vienne, Walkalou. La chanson dit guay. Guay, agaï, aïe. Nos amis de l'Eurovision 69 vous en parleront dans le podcast 44, BIB.
Je suis le préposé au pays balkanique, donc je me retrouve à vous parler maintenant du Monténégro, parce que le Monténégro a aussi annoncé l'interprète qui va le représenter à l'Eurovision à Vienne. C'était le 31 octobre dernier. Et il s'agit de Knez, de son vrai nom, Nenad Knezevic. Il chante depuis tout jeune, bon, comme tous ces chanteurs balkaniques qui visiblement ont tous fait des concours quand ils avaient 8 ans. Il a d'abord participé à un groupe qui s'appelait The Moon Band, et puis il chante en solo depuis 1992. Il a une discographie assez fournie qui compte une dizaine d'albums et de compilations. Bon, alors il est plus tout jeune hein, parce qu'il a 47 ans, bon il est même un petit peu dégarni. Côté style de sa musique, c'est de la pop balkanique avec un mélange de guitare, de rythme slave et de son électro. Bon, ben, rien d'extraordinaire. Il a côtoyé le petit monde de l'Eurovision puisqu'il a participé à la sélection du Serbie-Monténégro en 2004 avec un titre assez moyen qui s'appelait Navika. Mais bon, évidemment, il n'a pas gagné cette sélection. Il n'y avait rien à faire pour contrer Zeljko et il a fini 17e sur 24. C'est plutôt pas top. Hein. Son dernier single que vous entendez en ce moment s'appelle Donna et est sorti en avril 2014. Donc c'est un petit peu le style dont je vous ai parlé. Knez est aussi producteur. Il a travaillé notamment avec la mégastar balkanique Cheka, pour qui il a écrit son tube Emerskvo More en 2003.
Moi pour l'instant je suis pas content non plus parce que moi j'aime pas les chansons balkaniques, donc ça annonce un peu horrible pour moi hein. J'espère me tromper.
Moi je n'attends rien du Monténégro.
Ben, un peu comme Ethan, si l'an dernier j'étais déjà emballé rien qu'à entendre Sergei Shevkovitch, là cette année il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien de sexy quoi chez Knez.
Non, Oulou. Ça on peut pas parler de sexy pour lui, c'est vrai.
Bon, on quitte les Balkans et on va où maintenant?
On part en Belgique. C'est Loïc Noté qui représentera la Belgique à Vienne. Il a été choisi en interne. Et bah comme quoi tout arrive, moi je suis très heureux du choix de la RTBF. J'aime beaucoup la prestation finale de Roberto Benedarossa. Vous le savez, on en a déjà parlé ici, mais quand ils l'ont choisi, je me disais « Oh mon Dieu !» Et ben là, cette année, pas du tout, j'adore. Je suis vraiment enthousiaste, je trouve qu'il a une voix magnifique. Il sort du The Voice belge, donc tout ce qu'on connaît de lui, c'est ce qu'il a fait au The Voice belge. Je pense qu'il a rien fait d'autre, et vraiment, j'adore sa voix.
C'est intéressant de savoir que ils ont choisi ce garçon-là parce que bah, d'une, il est jeune, et ça, ça joue quand même, quoi qu'on dise. Ça tranchera avec le Monténégro.
Ça, c'est sûr, ils ont 30 ans d'écart.
Oui, il a été reconnu dans un supermarché en Belgique d'ailleurs. Donc, il commence à avoir sa petite notoriété, à avoir la chanson, quoi, simplement.
Son premier titre, c'était une reprise de la chanson Chandelier de Sia. Et puis, il a aussi repris un titre des London Grammar, Strong, lors d'un show pour la RTBF. J'ai envie de dire que la RTBF avait annoncé que désormais, ils entendaient choisir leur représentant parmi les finalistes de The Voice. Donc, c'est tout à fait logique ce choix. Mais après, on attend la chanson. Hein.
Et par rapport au choix belge aussi, je suis très content comme Ethan. Même si on sait bien que c'est pas seulement une voix qu'il faut, mais aussi une chanson. Pour un pays demandé à Rue Lorenzo, par exemple, c'est pas tout la voix, mais ça aide, bien sûr. Et donc, on attend connaître la chanson, mais vu ce qu'ils ont fait avec Roberto, on peut être optimiste, je pense. Hein.
La Belgique est capable du pire comme du meilleur.
Ouais. Donc, on pense qu'ils feront les meilleurs pour gagner et arriver en finale, au moins, comme il y a deux ans. La RTBF.
On l'espère.
Bon, mes amis, je sais que vous l'attendiez. Vous n'attendiez que ça. On va faire le mot autrichien de la semaine. On écoute le jingle. Les mots autrichiens.
Allemand.
De la semaine. Messieurs, dames, on se transporte là, dans ce voyage spatio-temporel. On est à l'année 83 et vous écoutez la chanson Hurricane, qui veut dire en français, Ethan.
Ouragan.
Ouragan. Bah, sachez que c'est pas mot allemand, donc ça marche pas. Même one point, mais ça sert pas à rien parce que c'est pas des mots autrichiens de la semaine. Je vous préviens, en allemand, on aurait dit Orkan, mais bon. C'est la chanson 83 que je vous présente et je vais profiter en fait pour vous parler d'un chanteur autrichien qui s'appelle Gerhard Lux, plus connu sous le nom de Gary Lux, qui est né au Canada dans les années 59, donc il a 55 ans actuellement, et qui est allé à l'Eurovision, messieurs dames. Attention, je pense qu'il a les records pour l'Autriche et peut-être aussi pour l'Eurovision même. Il est allé à l'Eurovision 6 fois comme chanteur, 6 fois. Et il a essayé encore deux fois d'autres, imaginez-vous, hein, ces messieurs. Donc là, ce que vous écoutez, c'est la première fois qu'il a essayé. C'était avec le groupe, à cette occasion, qui s'appelait Westend, qu'il a fini 9e. Il a été 8e dans les charts autrichiens avec ces chansons-là, etc. Hein. Et l'année d'après, on allait 84, messieurs Gary Lux, il a quand même participé à l'Eurovision à nouveau, mais cette fois-ci, il était choriste de la chanteuse Anita, je sais pas si vous vous souvenez, mais qui est assez mauvaise, qui a fini de 19e. L'année 85, une année après, SM Sirius qui a réussi à participer en solo avec la chanson QQ encore, mais impossible. Kinder d'Isabel, qui veut dire.
Les enfants se montrent.
Voilà, par ouais, autre. Donc, ces chansons, je n'aime pas non plus, elle a fini 8e. Mais on va atterrir à l'année 87 avec une chanson qui a fini 20e à Bruxelles, parce qu'on parlait tout à l'heure de Belgique, voilà, c'était à Bruxelles justement. C'est la chanson Nur noch Gefühl, qui veut dire rien d'autre que des sentiments. Je ne sais pas si on peut traduire comme ça en français. Avec cette chanson-là, Gary Lux, en fait, il a eu un classement très mauvais. Et c'est la dernière fois que la télé autrichienne lui a permis de concourir à l'Eurovision. Hein. Après, il est revenu, mais comme choriste. Et je pense que la faute de ce mauvais classement, c'est, enfin, il y a des problèmes. Un, qui a chanté numéro 3, enfin, au début du concours, donc on l'a complètement oublié. Et deux, et plus grave, c'est qu'il a chanté faux. Je vous mets un morceau que vous allez écouter là. Je pense que c'est ça que les jurys n'ont pas aimé. Mais au moins, Nur noch Gefühl, c'est une chanson qui va vous permettre de dire des choses si romantiques comme Halt dich fest an mir.
Halt dich fest an mir.
Qui veut dire est un.
Serre-moi fort.
Voilà.
Contre toi.
Voilà. Ou des choses comme Komm ganz nah zu mir.
Komm ganz nah zu mir.
Qui veut dire Fabrice?
Viens plus près que de moi.
Oui, tu veux que je vienne plus près de toi?
Bon, ouais, si tu veux, si t'as un verre dans les mains.
Voilà, donc vous voyez bien, cette chanson, au moins, nous a permis d'apprendre des choses très jolies pour draguer en Autriche. Et je vous rappelle qu'il a aussi participé, si vous regardez les vidéos, vous pouvez peut-être vous les trouverez comme choriste des années 93 avec Maria Magdalena qui est partie de mon jingle justement. Et en 95, les Devil Dread Sisverkehr qu'on en parlait une autre semaine possiblement, il est aussi un choriste. Mais irréconnaissable par contre. Alors Farouk?
Qu'est-ce que Aitor ne ferait pas pour nous faire écouter toutes ces horreurs? Quand même. Alors, c'est vrai que c'était assez bizarre parce que moi, je me suis tapé les trois chansons à la suite. Donc, quand j'ai regardé la première, je me disais, bon, ça s'écoute. Bon, une fois, c'est suffisant. Mais par contre, pour les yeux, c'est une horreur. Vraiment, c'est terrible. Et après, je me disais, mais quand on imagine que la même année, Michael Jackson faisait Thriller, on se dit quand même qu'il y a un problème. Après, j'ai regardé la chanson de 85 et je me disais, mais pourquoi il faut revenir ce type? Il devait manquer tellement de chanteurs en Autriche à cette époque qu'ils l'ont envoyé une deuxième fois. C'était un peu bizarre. Et puis après, j'ai regardé la troisième performance, celle qui a fini 20e sur 22. Et là, je me disais, ce gars-là, Gary Lux, c'est ce qu'on appelle un des morpions de l'Eurovision. Aucun talent, et ils arrivent quand même à squatter le concours comme chanteur principal ou comme choriste. Cette troisième chanson, c'est d'un ennui. C'est d'un ennui.
Oh.
Là, je me disais, mais mince, avec ce mot autrichien que nous prépare Aitor, on va vachement souffrir.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une très belle balade, justement.
C'est ce que les jurys ont pensé, puisqu'ils l'ont mis 20e sur 22e.
Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de dire, mais c'est parce que la semaine, le podcast précédent, je vous souvenais que j'ai parlé d'une chanteuse que Ethan adore qui s'appelle
Petra Fry. Ah, j'adore.
Et Farouk, il avait dit déjà que les artistes autrichiens voulaient revenir à l'Eurovision, mais vous voyez, Gary Lux a superé, mais vraiment a dépassé à Petra Fry, parce qu'en plus, je voulais te dire qu'en 84, il avait fini deuxième de la finale autrichienne, déjà, et en 94, il avait même composé la chanson qui a fini deuxième. Donc ces messieurs-là, voilà, les Mr. Eurovision en Autriche. Hein. Ah, maintenant, c'est peut-être Conchita Wurst, mais...
Non, mais, Aitor, en fait, quand tu vois un type comme ça, tu te dis, soit il y a un désintérêt total des artistes autrichiens pour le concours, et donc il n'y a plus que lui, soit tu comprends pas, quoi.
L'Eurovision des années 80, de façon générale, c'était pas terrible.
Ouais, c'était les plus mauvaises années.
Donc, comment vous dites que tout est magnifique en France. Enfin, vous ne la dites pas, mais moi, je l'ai dit en tout cas. Hein. On va passer au sujet suivant.
On va effectivement revenir à une artiste française. Elle s'appelle Indila et elle a remporté pour le club OGAE France le concours OGAE, hein, qui porte bien son nom. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le concours OGAE, c'est une sorte d'Eurovision inter-fan club. Donc, chaque club choisit une chanson et on fait un concours avec tout ça. Cette année, on avait 26 candidats, hein, de tête. Et eh ben, c'est notre petite française Indila qui a remporté.
Que tout recommence, ou ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse.
Moi, j'y croyais pas du tout, j'avoue, mais avec 251 points, Dernière Danse laisse loin derrière Ellie Goulding avec Burn, qui représentait le Royaume-Uni. Et qui finit avec un truc genre 170 points pour le Royaume-Uni. Pitoyable par rapport à nos 251 points. Bravo Indila. Mais le truc le plus important de ce concours, c'est celle qui a fini dernière. Et je laisse à Fabrice le plaisir de vous en parler.
Ah, moi non, c'est Victor qui m'en parlait. Moi j'ai une anecdote sur cette dernière. C'est que l'an dernier, cette chanteuse a donné un CCD à un de nos amis.
Ah,
et c'est vrai, hein.
Un ami belge.
Il y a des photos preuves sur Eurovision 69.
Et il était tout content. Donc il dit, bah attends, là, je vais lui faire dédicacer. Donc il va voir cette chanteuse et puis il lui donne un stylo et puis le CD. Et puis elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors lui dit, bah tu signes, bah c'est quoi ton nom? Bah il lui dit, bah non, c'est ton nom que tu dois mettre, tu signes toi. Elle a rien compris cette fille. En tout cas, pour revenir au concours OGAE, moi je suis très content pour Indila, je suis content que la France elle a rayonné à travers l'Europe. Une dernière danse, ça fait à peu près 2 ans que dans les pays on en parle, même en Géorgie on en a parlé, les gens ils aiment bien cette voix, elle a quelque chose qui prend. Bon, elle ne... Ce sera quasiment impossible qu'elle fasse le concours dans les prochaines années. Je pense que quand elle connaîtra une période creuse, elle pourra peut-être y songer. Mais sa voix, elle plaît. Et c'est ce qui est important de retenir.
Ouais, moi je vais revenir un petit peu sur le concours OGAE en général. Déjà, ce qui est intéressant, c'est au niveau du classement. Parmi les 6 premiers, vous avez les 5 pays du Big Five. La France, l'Angleterre, l'Allemagne...
Oh, c'était super l'Allemagne, c'était super, j'adore l'Allemande.
Moi aussi, j'ai beaucoup voté. T'as donné les 12, hein, Ethan?
Oui, et... oui.
Atemlos, durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei.
Pardon, Farouk, je t'ai coupé, mais c'est... C'est un t-shirt qui m'enthousiasme.
Et l'Italie avec, je crois, 5e, Israël, qui a eu un classement aussi relevé dans l'Eurovision depuis bien longtemps. La France obtient donc sa 5e victoire, ce qui la met à égalité avec avec l'Espagne, notamment. et puis, je voudrais quand même noter que si vous regardez un petit peu le tous les gagnants depuis 1986, la date du premier concours OGAE, vous remarquerez que l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie sont régulièrement les gagnants de ce concours et que le Big Five s'y taille la part du lion. C'est assez étonnant et c'est presque l'inverse du concours Eurovision. C'est assez amusant, je trouve.
C'est vrai. Donc, de mon côté, il faut dire que l'Espagne était 4e cette année avec Pastora Soler. mes amis pensent que j'aime pas Pastora Soler, j'aime bien Pastora Soler, pourquoi vous dites ça? J'aimais un petit peu moins cette chanson, j'ai voté pour elle sur les jurys français, mais vraiment, j'ai dû la classer, mais bah, j'ai voté. Ma favorite c'était le Royaume-Uni, parce que je pouvais pas voter pour la France, ma favorite c'était la France, après le Royaume-Uni, et puis je me souviens plus, mais enfin la Russie aussi, j'aimais beaucoup, bon, en tout cas. Et pour la France, il faut dire que les autres fois qu'il a gagné, juste pour curiosité, si vous ne savez pas, il avait gagné la France en 91 avec Mylène Farmer et des chansons, avec Leila Dorian et Jardin des Lumières en 99, je connais même pas qui c'est celle-là, Alizé avec moi Lolita, ça c'est bien, 2001, et Norwen Leroy avec Cassé en 2003. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est le côté drôle pour nous, c'est sur celle qui est allée là, la chanteuse du disque que tu viens de dire tout à l'heure, c'est que moi, quand j'écoutais les chansons, je les écoutais à l'aveugle sur mon écouteur, sans savoir les pays. Donc, j'ai juste reconnu Pastora Soler, évidemment. Et en fait, j'avais une chanson que j'ai détestée. Je disais, mais c'est horrible, c'est quoi cette merde? Pardon, cette pie. Et quand j'ai découvert qui c'était, j'ai compris. Je sais pas s'il faut dire les noms. Peut-être qu'il vaut mieux pas dire les noms parce qu'on sait jamais. Je vois ce que c'est la croisière. Non, on la croisera bientôt, peut-être à Vienne, j'ai pas envie de, au cas où. Mais voilà, quoi. Donc ça, c'est un peu l'anecdote. Et donc, Farouk.
Oui, c'est à moi maintenant, je fais la suite.
Bah, tu peux faire la suite en parlant des victoires de la France.
La France est toujours bloquée à 5 victoires depuis 1977. Bon, juste pour vous dire, mais je pense qu'on l'avait déjà dit dans un précédent podcast, que cette année, le concours revient sur France 2 et que ce sera une sélection en interne. On n'a pas plus de nouvelles que ça. Il y a des noms qui circulent, mais vous savez, les rumeurs, ça va, ça vient. Donc, on attend. Je pense que ça va commencer à se débloquer en janvier, probablement.
Donc, cette année, on n'a pas des news secrètes ni rien.
Non, mais par contre, une très mauvaise nouvelle, et moi, ça m'a fait presque pleurer, c'est que l'Ukraine ne viendra pas à l'Eurovision cette année. Et pour des raisons à la fois financières, mais aussi politiques, hein, je vous fais pas un dessin sur la situation politique que connaît le pays, qui est assez dramatique. Les Ukrainiens renoncent à participer au concours. C'est vraiment un taulier de l'Eurovision qui ne vient pas. Hein. L'Ukraine, c'est quand même une victoire. Je pense qu'à tout casser, ils ont dû être au moins 8 fois dans le top 10. C'est des chanteuses, soit des grandes divas, soit à la limite des prostituées. Enfin, tout ce qu'on aime... Tout ce qu'on aime à l'Eurovision, soit c'est des grandes divas, soit elles sont vulgaires comme tout. On adore.
Non, après, moi j'aime le raffinement.
Ouais.
Pour j'aime moi, les chanteuses raffinées.
L'Ukraine, c'est la grande, l'incontournable Svetlana Loboda, qui pour moi représente la quintessence même de l'Ukraine à l'Eurovision. Et on n'y aura pas droit cette année. Ça, c'est vraiment dommage.
Moi, ça me manque l'Ukraine, parce que c'est vrai que dans le genre... c'était l'année quoi, c'était l'année où ils allaient nous sortir ça à nouveau et on va rater ça. Et pour moi, l'Ukraine est un grand pays de l'Eurovision. Voilà, ça va nous manquer. Un autre pays, si vous voulez, on s'en va en Bulgarie. Alors, la Bulgarie, c'est pareil, hein. On y va pas, ils ont pas de sous. L'UR a donné un délai supplémentaire. La participation n'est pas exclue, mais elle n'est pas confirmée. Peut-être que le résultat de leur deuxième place à l'Eurovision Junior pourra peut-être les inciter à y aller franco, mais bon, c'est pas encore sûr.
En fait, ce qui était assez amusant, c'est que avec l'Eurovision Junior, on en a parlé lors du dernier podcast, c'est la première fois que la Bulgarie a envoyé une chanson qui vraiment tenait le coup depuis 2007.
Et c'est ça... vrai que... Il faut pas trop dévoiler parce qu'on en parlera tout à l'heure.
Ouais, non, mais je parle pas du classement, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une chanson qui vraiment chantée par une artiste majeure, on va dire, avait ses chances au concours classique. Et j'ai l'impression que c'est un gâchis d'une certaine manière. Ils avaient une bonne chanson, ils auraient pu en faire quelque chose à l'Eurovision senior, et ils l'ont gaspillé à l'Eurovision Junior.
Moi, moi, comment tu dis, vu ce qu'ils ont fait à l'Euro Junior, justement, je pense que peut-être la Bulgarie va essayer. Mais la raison, c'est qu'il y a un changement politique au pays, hein, ou dans la télé publique, ou un truc comme ça. C'est plutôt à cause de ça qu'ils ne sont pas pu donner la réponse. Ils manquent de l'argent, hein. Mais sinon, ils ont envie de participer. Bon. Bah, des pays vulgaires, pardon, bulgares, on passe à un pays qui, je sais qu'il fait rêver à beaucoup des refrains, surtout à Farouk. C'est la République tchèque. Ah non, il y a Bogdan. À Bogdan surtout. C'est la République
tchèque. Bogdan est slovaque.
Ouais. Bon, mais il adore la République tchèque, du coup, aussi, parce que j'ai vu ses commentaires sur Facebook. Donc, je vous annonce, bon, déjà, le 19 novembre, c'est la télé publique qui a annoncé le retour du pays. Enfin, on va pouvoir se réjouir de ces magnifiques prestations de la République tchèque. Je vous rappelle qu'il a participé déjà 3 fois. Ce que vous écoutez, c'est celle, pour moi, la meilleure chanson qui s'est envoyée. Ça, c'est de 2008, Half Some Fun, de Teresa Kemlova. Mais en 3 participations, leur meilleure position, c'est avant-dernière de la demi-finale, et sachez. Donc, ils sont finis 2 fois dernière de la demi-finale, surtout 1 fois avec 0 points, l'autre 3 avec 1 point. Donc, c'est un pays qui a un palmarès pire qu'Andorre, parce qu'en fait, Andorre, il est en moins, il est 11e 1 fois sur la demi-finale 2007, la République tchèque, même pas ça. Donc, ce que moi j'ai voulu dire pour finir avec un côté positif, c'est que moi je me suis tapé les finales nationales des années 2007-2008, oui j'ai eu le courage, et j'ai trouvé 4 chansons que moi j'ai trouvé très sympas, et dans 4 styles très différents. Je vous montre juste quelques secondes pour que vous voyez que ça peut donner, ce que ça peut donner. Par exemple, des ballades magnifiques comme celle d'Elena, Love Me Again en 2007. Know that you still feel the same way. Ou la chanson un petit peu plus rock, Two Sides du groupe Toxic, 2008. Ou même celle du groupe qui a représenté en 2009, mais l'année d'avant, ils ont chanté Benga Beating, qui était pas mal. Ou des chansons chantées en français qui auraient pu bien représenter la France en 2008, avec les groupes, enfin, la chanteuse Iva Funilova qui chantait Partir et Revenir. Donc pour moi, ces 4 chansons, c'est des chansons qui auraient pu faire un mieux rôle à l'Eurovision que ce qu'ils sont envoyés vraiment. Farouk.
Oui, bah écoutez, moi effectivement, cette annonce du retour de la République tchèque m'a, vous le devinez bien, enchanté. Et donc, parce que c'est vrai que on pouvait pas faire pire que les 3 horreurs qu'ils nous ont envoyées en 2007, 2008 et 2009. Donc plus sérieusement, moi ce que j'ai voulu savoir un petit peu, c'est quelle est un petit peu la scène musicale tchèque. Le problème, c'est que là-bas, en République tchèque, pratiquement 90% de ce qu'ils écoutent, c'est de la pop anglo-saxonne, c'est-à-dire en gros les gros tubes qu'on entend dans le monde entier. Si vous cherchez dans les charts, vous aurez du mal à trouver des titres tchèques. Il y en a quelques-uns, hein, mais ça représente qu'une infime part du classement total des charts. Alors, voici quelques tendances que je vous propose à travers quelques extraits musicaux. D'abord, il y a ce groupe qui s'appelle Christophe. C'est un groupe qui a 20 ans de carrière, donc ils sont tout jeunes. Une discographie très fournie, donc il y a à peu près un album tous les ans ou tous les 2 ans. Et leur dernier album a été un gros succès. Il était porté par le single que vous allez entendre maintenant, qui s'appelle Chesta. Alors, c'est très influencé par la pop rock américaine des années 70, et on retrouve beaucoup de groupes de ce style-là en République tchèque. On a l'impression que le fait d'avoir vécu de l'autre côté du rideau de fer les a frustrés un petit peu d'avoir loupé l'époque Woodstock, l'époque Peace and Love, l'époque Big Nick, d'une certaine manière. Dans un style un petit peu identique, mais peut-être un petit peu plus jeune, le groupe pop du moment, il s'appelle Chinaski. C'est l'un des rares groupes tchèques très bien classés dans les charts, avec le titre qui s'appelle Vino. Pour changer maintenant, je vous propose une voix féminine. Il s'agit d'Aneta Langerova, dont Aitor pourra peut-être nous parler un petit peu. C'est une chanteuse folk très populaire du côté de Prague, qui va sortir un nouvel album dans les prochains jours. Et le titre que je vous propose d'écouter, ça s'appelle Svata Kordula, et c'est le premier extrait de cet album qui va sortir incessamment sous.
Tam w głębokich wodach prądem hna, popluje nocy nasz katamaran.
Aitor, tu as peut-être quelque chose à nous dire sur cette chanteuse?
C'est pareil que pour les groupes Christophe dit tout à l'heure. Les deux, ils ont été rapprochés par la télé tchèque en 2007, mais ils n'ont pas voulu participer à l'Eurovision. Ils sont refusés.
D'accord. Et puis je termine peut-être avec le titre qui me paraît le plus intéressant en ce qui concerne l'Eurovision. Il s'agit de Elsa, avec un titre pop un petit peu électro qui s'appelle Luta Saruchni.
Im bliżdy k tobie, tym sydam. Wszechny cesty spadać niż wolna, bych to wzdał. Im bliżdy k tobie, tym sydam. Wiem, że we twym naruci stracę ludu zaruci. Im bliżdy k tobie, tym sydam. Wszechny cesty spadać niż wolna. Wracim se w rodno, gdy i ja był tym do własne, czemu znam.
Donc c'est un des rares trucs pop du moment qui à mon avis pourrait faire l'affaire à l'Eurovision et éviter à la République tchèque une nouvelle déconvenue. Alors je ne sais pas comment ils vont faire. Moi la scène musicale tchèque m'est apparue plutôt pauvre à la fois en quantité et en qualité et surtout très triste et très terne. Je pense que si le pays veut faire un bon score à l'Eurovision 2015, il va falloir beaucoup travailler ou bien faire comme d'autres, acheter sa chanson à l'étranger.
Ce que j'ai oublié de dire, en fait, que c'est important, avec l'émotion, c'est qu'en fait, cette année, ils sont demandés à 5 compositeurs connus, réputés, de composer les chansons. Après, on verra bien ce que ça veut dire pour réputés en République tchèque, mais bon.
C'est ce qui m'inquiète.
Là, on s'en va maintenant donc à Chypre, les enfants. Donc Chypre, tout ce qu'on sait, c'est que la finale aura lieu le 1er février 2015. Chypre, la dernière fois qu'on les a vus, c'était en 2013. La plus belle chanson chypriote qu'on nous a balancée au concours, c'était en 2011. Voilà.
Elle n'a pas été la finale.
Oui, mais c'était la plus belle. J'ai un truc avec la Chypre 2011, c'est que quand je suis rentré dans la scène de l'Eurovision en 2011, la première répétition que j'ai entendue, c'était le chypriote. Et j'étais émerveillé par son truc, moi j'ai adoré. Et ça reste.
Ouais. Moi, la plus belle chanson, la meilleure chanson chypriote et la meilleure performance peut-être, c'est Vridiki avec Comme Si Comme Ça. C'est une des grosses injustices de cette année-là qu'elle ne soit pas passée en finale.
Je rebondis sur un truc que tu n'as pas dit, Fabrice, c'est qu'en fait, cette année, ils vont faire un truc méga long en Chypre, c'est 10 programmes. Hein. Donc il y a 60 chansons, il y a 7 programmes pour choisir 20. Après, il y a 2 demi-finales où on garde que 6 total. Et après, il y a une finale le 2 février, un jour après que la finale suisse, on en parlait tout à l'heure. Donc on va commencer les mois de février et, voilà, avec des chansons nouvelles.
La Serbie, ce pays, donc ça sera en février 2015, c'est tout ce que je sais.
Non. Ce que j'écoutais dire, c'est qu'il y a 3 chanteurs qui vont faire une finale, 2 très connus. On parle beaucoup de Maria Selifovic, c'est le cas en 2007. Et le troisième, ça va sortir d'un concours, télévisé, enfin, encore, pour des nouveaux artistes, je sais pas trop comment ils s'appellent. C'est sur Eurovision TV, en fait, cette information-là.
On reste pas bien loin, l'Albanie re-signe pour un festivali I Can Guess. Ce sera le 53e. Donc il y a 28 artistes qui seront là le 26 décembre. Première soirée le 26 décembre, 28 artistes. Le lendemain, il n'en restera que 18. Et le meilleur s'envolera pour Vienne au mois de mai. Ah, et alors j'ai lu les 28 noms. Eh ben, j'en connais pas un seul.
Un seul. Oh là là.
Il faut quand même se méfier de l'Albanie, hein. Rappelez-vous ce qu'elle nous a fait en 2012.
Hein. J'imagine deux soirées, l'une avec 26 chansons et l'autre 18, mon Dieu.
Non, non, moi j'adore l'Albanie en principe. Il y a toujours des petits bijoux dans la finale albanaise. Moi, c'est une des finales, donc je regarde pas avec plaisir, faut pas exagérer, mais enfin, dont je regarde avec plaisir certaines prestations.
Oui, bijoux en toc. Hein.
Non, non, vraiment, moi j'adore souvent.
Mon rêve secret, c'est un jour partir au Bélarus, à Minsk. Je vous rappelle, comme on l'avait dit il y a 2-3 podcasts, que j'ai le guide touristique de Minsk. Je suis peut-être le seul en France.
Donc, il y a la liste des prisons politiques, notamment.
Comment ça se passe? Il y a des hôtels et tout, des restos. Je vais vous en scanner quelques pages et puis vous allez voir. C'est vraiment passionnant. J'ai vraiment envie que le Bélarus gagne l'Eurovision. La finale aura lieu le 26 décembre 2014. J'espère qu'ils vont nous balancer un truc pas mal. Ça fait quand même deux finales de suite qu'ils nous font au concours. Donc, moi, j'y crois au Bélarus.
Ouais, mais Fabrice, l'UR n'a pas envie d'aller au Bélarus. Vu la position où ils ont mis Théo l'an dernier, ça voulait clairement dire que non, ils veulent pas aller à Minsk. Même si nous, on en a envie d'y aller.
Ouais, mais ils sont d'accord pour prendre l'argent de la participation du Bélarus. Faut quand même aussi accepter d'y aller si un jour ils gagnent.
Ils y ont déjà organisé le junior, hein.
Bah oui, ils en sont pas morts. Enfin, j'espère.
Non, non, les opposants politiques en sont morts, mais pas, pas les membres de l'UR.
Allez, on passe à autre chose. What else?
What else?
What else?
What else?
What else?
Hey, do you remember? Pour ce What Else, nous partons en Suède retrouver Robin Steinsberg, le représentant suédois de 2013. Robin, avant l'Eurovision, avait participé à un concours qui était organisé au Globe Theater en 2007 pour choisir les futurs membres d'un groupe pop. Il a été sélectionné parmi 15 finalistes avec 3 autres garçons et ils ont formé le mythique groupe What's Up. L'un des membres de ce groupe était un certain Eric Saad. Bon, l'aventure de What's Up n'a duré que le temps d'un album. Eric Saad a été le premier à quitter le groupe qui s'est dissout peu après. Alors, Robin a tenté de rebondir en participant au télécroché Idol, une sorte de nouvelle star, en 2011, où il a atteint la finale qu'il a perdue face à Amanda Fondel. Il a ensuite sorti, peu de temps après, un album de reprise et il a candidaté au Melody Festival en 2013. C'est via le Second Chance, la demi-finale de repêchage, qu'il s'est retrouvé en finale. Finale qu'il remporte à la surprise générale avec You, le titre avec lequel il a défendu la couleur de la Suède à Malmö. Vous vous souvenez sans doute qu'à Eurovision 69, mes amis Aitor, Ethan et Fabrice étaient enthousiastes et voyaient en Robin l'un des favoris du concours. Ce qui était sans doute très excessif puisqu'il a terminé à une décevante 14e place. Le 26 juin 2013 est sorti son second album, Pieces, qui comptait bien sûr You, et dont seront extraits deux autres singles, Crime et le superbe Pieces. L'été dernier, Robin a sorti un nouveau single, Body Language. Ce single annonce un prochain album, prévu initialement pour fin 2014, mais qui devrait sortir plus probablement au début 2015. J'ai accroché immédiatement à Body Language. C'est un titre dansant, mêlant les sonorités pop, funk et disco. Le clip de ce single est très drôle. Robin Steinberg s'est visiblement éclaté pendant le tournage. Il se déguise successivement en boutonneux à lunettes, en rappeur à casquette et, cerise sur le gâteau, en obèse à chemise hawaïenne. Est-ce que c'est un clin d'œil à ses kilos perdus? Sans doute, si on se rappelle que la caractéristique principale de Robin était son gros cul, qui n'allait pas du tout avec les jeans qui sont Et c'est pas moi qui le dis, c'est la presse People qui faisait régulièrement référence à ce gros postérieur. Mais il paraît que depuis quelque temps, il a maigri. En tout cas, Body Language est un titre très efficace et qui annonce peut-être l'album de la maturité. Qu'en pensez-vous, les amis?
Déjà. Et je revendique que j'aimais bien cette chanson. You, comment tu dis, bon, c'est pas Lou Garou, c'était You, qui a une magnifique chanson et qui a failli gagner notre classement du podcast. Hein.
Je sais plus, le podcast. C'est là parce qu'on aurait été humiliés. Hein.
Podcast 25, si vous voulez réécouter. C'est un magnifique podcast. Hein.
Bon, merci.
Et sinon, la chanson, bah, moi, je trouve qu'elle est à la même ligne, elle est très bien aussi. J'ai bien aimé.
Moi, j'aime beaucoup Robin, j'aimais beaucoup You, en tout cas sa prestation au Melody Festivalen. Je trouve que ça avait perdu à l'Eurovision, la scène lui allait moins, les tenues, je sais pas, les lumières surtout. Ce titre, moi, j'aime bien. Et puis, il est sympa, ce Robin. Alors, bon, par contre, il faut qu'il continue son régime encore un peu.
Non, il est bien ce Robin. Si tu regardes bien Farouk dans le clip, à un moment il est aussi en clochard au tout début.
Ah.
Ouais. Et non, eh bien, il y a une belle discographie. C'est pas mal hein, ce qu'il fait. C'est même mieux qu'Eric Stad.
Ouais, ouais. Donc les amis, allez sur
iTunes. C'est mieux qu'Eric Stad.
Allez sur iTunes et télécharger et acheter son titre parce que c'est vraiment très chouette.
Moi j'ai déjà MP3isé.
On reste en Suède, on va parler du Melody Festivalen 2015. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Sanna Nilsson et Robin Paulsson, lui on s'en fout un peu, seront les deux présentateurs de l'année, hein, parce que ceux de l'an dernier c'était pas terrible, alors ils auront fait qu'une année. On va pas s'en plaindre. Alors, Sanna Nilsson, par contre, le jour de la conférence de presse d'annonce des présentateurs, elle avait une coupe de cheveux vraiment affreuse. Il faut qu'elle passe chez le coiffeur. Ça, c'est impératif. Sinon, ce qu'on sait, c'est que chaque demi-finale comportera une chanson de moi. Il y en aura donc 7.
Melody no matter who.
7 par demi-finale. Les premiers... pas le premier, juste le 7. Le 14, le 21 et le 28. Ça, c'est les demi-finales. Donc, 7 chansons. On en garde 2 dans chaque demi-finale. Et on en envoie 2 au repêchage. Le 7 mars, nouveauté, Alondra Johnson. Au lieu de récupérer 2 chansons, on en récupère 4. Bilan des courses, si vous avez bien compté, 12 chansons pour la grande finale au lieu de 10 avant. Donc ça, c'est un gros changement aussi. Voilà. Et alors, au jour où on enregistre, vous pouvez tous les découvrir sur le site, un article pour chaque groupe de demi-finale, on va dire la première, la deuxième, et de notre côté, la troisième, la quatrième, c'est un peu embrouillé, je sais, mais j'avais pas trop préparé les choses avant. Et alors, pour chaque chanteur, vous allez découvrir une de ses chansons, donc même les inconnus, vous pouvez découvrir qui c'est sur ce site, qu'il est bien, Eurovision69.com.
Super bien.
Allez, on adore.
Bah, on s'est dit, il y a un site qui est de mes amis de travail qui c'est pas mal non plus, concoursrevision.fr, non?
Ouais, non, mais c'est bien pour les sélections, là, en Eurovision 69, moi j'aime bien. Et en plus, c'est le Twitter de Eurovision 69, on l'oublie à chaque fois.
À Eurovision 69.
Et les Facebook, parce qu'on en a aussi, c'est facebook.com/Robsession9. On quitte la Suède parce que sinon passer à des heures et on a encore des pays et nos amis s'endorment. Donc moi, je passe un pays.
Parce que c'est l'Islande maintenant.
On passe à l'Islande. Donc l'Islande, ça sera plus rapide, vous inquiétez pas. C'est un de mes pays favoris. Donc vous écoutez sur une de mes chansons favorites à l'instant. De l'Eurovision de l'Islande. Mais bon, juste dire rapidement que cette année, les Söngvakeppnin, c'est comme ça qu'ils appellent la sélection islandaise, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est juste qu'ils ont demandé au début à ce que la moitié des compositeurs soient des femmes. Et ça a fait un peu le buzz en Islande. Et finalement, ils ont enlevé la loi. Il faut juste être islandais et pas beaucoup plus. On sait que les chansons, ils ont déjà été récupérées. Donc on ne connaît pas les dates. Donc on passe au pays suivant.
Non, Aitor, tu te trompes. C'est le 31 janvier, le 7 février et du coup la finale le 14 février pour la Saint-Valentin. C'est romantique.
Oh voilà, je savais pas. Bah t'as mieux comme ça. Bientôt on aura des chansons islandaises.
Alors le pays suivant, c'est le Danemark. Le Danemark, c'est le 7 février 2015 que le Dance Melody Grand Prix enverra une chanson pour Vienne avec son chanteur ou sa chanteuse. Moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est de savoir que dans le Dance Melody Grand Prix, on y met maintenant un orchestre.
Non, c'est Norvège.
Ah merde. Je me suis trompé. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas d'orchestre au Dance Melody Grand Prix.
Et non, c'est en Norvège. C'est NRK qui fait revenir l'orchestre. Donc NRK 53e Melody Grand Prix. Un seul show télé cette année. On est triste, il n'y aura que 10 chansons. Visiblement, ils misent beaucoup sur ce fameux retour de l'orchestre. Personnellement, j'en vois pas d'intérêt. La nostalgie fait pas forcément bon ménage avec la pop des années 2010. Je suis très triste du changement de formule pour la Norvège.
Moi, je suis comme Ethan un peu déçu du retour de l'orchestre parce que ça change tout. Parce qu'à l'Eurovision, il n'y aura pas d'orchestre. Donc, il y aura une bande sonore et ça change tout. Une chanson peut être sublimée par un orchestre comme elle peut être l'inverse aussi. Et puis non, je suis pas très d'accord moi, sur le retour de l'orchestre. Et puis ça coûte cher un orchestre.
Non, moi je pense comme Fabrice, quel intérêt à mettre un orchestre quand au concours il n'y a pas d'orchestre. Ouais. D'ailleurs, à cette occasion, je peux quand même vous dire une petite chose. Ça n'a rien à voir, enfin si quand même. Il y a Emma Maroney qui vient de sortir un album live. Non mais juste pour vous dire qu'elle a sorti son album live et que dedans il y a La Mia Chita. Et je peux vous dire que la version live avec un orchestre derrière de La Mia Chita est vraiment beaucoup plus intéressante que la version qu'on a eue à l'Eurovision avec une bande son derrière.
On ne sait jamais. Mais moi, j'ai eu la mauvaise chance de pouvoir détruire une chanson espagnole en 93 à cause de l'orchestre. Et depuis, je suis contre l'orchestre. Donc, pour moi, viva les studios enregistrés MP3.
Ah, Hombres, une chanson magnifique.
Voilà, détruite en live, je pense. Même si Ethan adorait en live.
Oui, moi, je préfère même, je crois, la version live à la version studio.
Vous savez pourquoi ils sont détruits en live la chanson espagnole? Je connais la raison. C'est parce qu'à l'époque, aux années 90, c'était obligatoire quand tu n'utilisais pas l'orchestre, parce qu'il y avait un orchestre à l'époque, vous vous souvenez, mais on pouvait enregistrer des sons, sauf que si tu avais un truc enregistré, il fallait le faire sur la scène. Tu vois, s'il y a une guitare qui sonne, il faut que tu joues la guitare. Comme Bandido en 90, qu'on voit que c'est enregistré, mais quand même, bon. Et donc, le problème, c'est que tous les sons électriques de la chanson espagnole, on ne pouvait pas le mettre en place parce que la télé espagnole voulait mettre 3 danseurs et 2 choristes. C'est à cause de ça. Donc, la chanteuse n'était pas contente du tout, mais on ne l'a pas laissé choisir comme d'habitude en télé espagnole. Et c'est à cause de ça qu'ils ont détruit la chanson. C'est pas un choix de la chanteuse, justement, mais de la télévision espagnole. Voilà, petite anecdote.
C'est vachement intéressant. Alors, chers auditeurs du podcast Eurovision 69, sachez que Aitor a une chasse gardée. Il y a 3 pays auxquels il ne faut pas toucher. il y a l'Islande et l'Estonie, et il va maintenant nous parler de la Finlande.
Oui, donc la Finlande, à noter bien, parce que c'est très intéressant. Bon, vous savez que depuis 2012, la Finlande elle a décidé de changer la manière de chanter les chansons. Ils font plus les Eurovision comme ils faisaient avant. Maintenant, c'est les UMK, en finlandais, c'est Uuden Musiikin Kilpailu, qui veut dire concours de nouvelle musique. Et que vous avez constaté qu'ils ont très mal commencé en 2012. Très bien en 2013 pour moi parce qu'ils avaient Krista et cette année ils ont été magnifiques, ils ont été presque top 10 hein, avec Sof Engin. Donc cette année-là, bien sûr, ils vont répéter. La différence c'est qu'ils vont supprimer les jurys. Si vous avez regardé les finales l'année dernière, maintenant il n'y aura plus ces jurys impossibles qui savaient toujours là-bas à donner leur avis. Donc cette année ça va être plutôt du télévote qui va choisir. Et il sera plus enregistré parce qu'avant il y avait certains programmes qui étaient enregistrés, après d'autres en live, le final et tout ça. Maintenant ça va être tout en live. Donc ça va être un peu plus proche de ce qu'on connaît comme final national, mais toujours en cherchant des nouveaux artistes, etc. Et apparemment la télé Yle finlandaise, elle a déjà choisi les chansons. 10 chansons, mais ils vont les annoncer en janvier. Donc je peux pas encore vous dire lesquelles seront, hein, mais bon. On sait que c'est vers le début de l'année qu'on aura la chance d'écouter ces magnifiques finales. Voilà.
C'est prévu pour quand?
On connaît pas encore la date.
On s'en va sur un super pays de l'Eurovision qui m'enchante beaucoup, qui fait une série invraisemblable d'émissions de télévision pour choisir une chanson. Et c'est la Lituanie. Elle choisira sa chanson après je sais pas combien d'émissions de télé le 14 février 2015 pour une semaine plus tard choisir un artiste. Et la combinaison des deux ira à Vienne.
Ça a super bien marché l'an dernier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année.
Il faut pas être méchant parce que malgré qu'on n'aimait pas le résultat, il a failli passer en finale, il a fini 11e hein, cette année. Il a très bien chanté. Ah, Santos, il était très bon, c'est la chanson qui, pour moi, c'était pas bien. Et c'était un vrai succès au niveau d'audience en Lituanie. Hein. C'est pour ça qu'il utilise justement nouveau. Hein.
Mais comme dirait Tam, tout ça pour ça. Voilà.
On reste dans les pays nordiques, baltiques plutôt. Un autre pays favori à moi, c'est l'Estonie. La chanson favorite à moi en 2014, c'était l'Estonie. Donc vous l'écoutez là, évidemment. Et sachez que depuis quelques années aussi, ils ont changé leur fameux Eurolaul. Et maintenant, ils font les Estilaul. Et ça va être la 7e édition. Donc il n'y a pas beaucoup de différents par rapport aux années dernières. Donc ça veut dire qu'on écoutera des magnifiques chansons que j'avais pleuré avec toutes les chansons pendant des heures. Et la seule petite différence, c'est que ouais, il y aura des demi-finales les 7 et 14 février, la finale le 21 février. Mais au lieu d'avoir un deuxième tour avec les top 2, cette année ça sera avec les top 3.
Non, mais un top 3, c'est pas mal de finir avec 3 chansons. Par contre, il y a un pays qui va devoir essayer de trouver une solution parce que là, il a enchaîné les mauvais résultats. Aucune finale depuis 2008. 3 dernières places en demi-finale. Fabrice, que peut faire la Lettonie pour arriver enfin en finale?
Bah, c'est de nous remettre le groupe de l'an dernier.
Parce que, j'étais sûr que t'allais dire ça.
Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de talent. C'est pas très compris au jour d'aujourd'hui, mais dans quelques années, quand on se retournera, on se dira ouais, on est passé vraiment à côté de quelque chose avec ce groupe-là. Dans la Lettonie, plus sérieusement, c'est un pays que j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aimais bien Booty Full Song. C'était en quelle année? C'était en Baku, ça. Booty Full Song.
2012,
ouais. Ouais.
2012.
Non, Baku, ouais.
Ouais, c'était Baku. Moi, j'aimais beaucoup.
Il y avait les pères, le dernier, qui était super sympa.
Ouais, les pères, c'était sympa. C'est un... La Lettonie est un grand pays d'Eurovision. J'ai vraiment hâte qu'on nous remette le groupe de l'an dernier. Donc, ça sera le 22 février 2015. Ça sera le Supernova, ça s'appelle comme ça là-bas. Et moi, je crois beaucoup en ce pays.
Ouais, mais t'as pas expliqué qu'est-ce que c'est la supernova. En fait, il faut dire que, justement, comme disait Farouk, il faut chercher une autre chose pour passer. Et ils sont faits historiquement toujours les Eurosiesma, Osiesma, que c'était la finale lettonne, que moi j'adorais, vous savez bien. Et la preuve, c'est que cette année, on a fait un podcast et on a tous aimé. Donc, c'est pas si chiant qu'on pensait la Lettonie. Mais je suis un peu triste du coup parce que cette année ce n'est plus ces formats qu'ils vont utiliser, mais un espèce de talent show en fait. Hein. Ça rappelle un peu plus à la Lituanie. Il paraît que c'est le choix des artistes et des chansons séparément. J'ai pas compris hein, parce que c'est pas très clair là, si c'est vraiment exactement pareil qu'à la finale on connaîtra la chanson ou c'est juste l'artiste qu'on choisit et la chanson c'est à part. C'est pas encore très clair, mais en tout cas c'est Supernova que c'est nouveau. Mais Supernova, c'était la chanson de l'Estonie d'Elena qui était magnifique aussi, il faut le dire. Nova. On a parlé de beaucoup des pays nordiques. On peut passer à un pays ou une personne qui s'en aime beaucoup, non?
À Conchita Wurst, c'est la minute Conchita. Retour à Malte, 22 novembre 2014, Malta Eurovision Song Contest ou l'incroyable télescopage des images. 21h, ouverture magistrale évidemment, par Conchita Wurst et Rise Like a Phoenix. 20h40, les Ecclesia Sisters nous inondent de bons sentiments et noient la musique au passage. Évidemment, nous pourrions être attendris par ces vieilles dames qui sont aussi à l'aise face caméra sur un plateau Eurovision que je le serais un cierge à la main à devoir psalmodier perché sur l'autel. Mais j'ai hâte de voir si les réactions seront aussi tendres le jour où l'Albanie, la Grèce ou Israël prendront l'idée de nous infliger des religieux au concours. Dieu merci, un ange noir a renvoyé les sœurs dans leur couvent et un peu plus tôt, notre héroïne Anou a repris le pouvoir, guerrière elle aussi. Love is a battle cry, Conchita wins, que les murs tombent et que les couleurs illuminent le ciel. We could be heroes, she was one that night.
Aitor, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va se passer en Espagne pour choisir la chanson qui représentera le pays des toréadors et des castagnettes?
Les toreros. Bah, en fait, malheureusement, c'est pas une nouvelle confirmée, mais déjà, rien que pour les personnages religieux qui y participent, c'est déjà, ça vaut déjà le coup que je vous annonce ça. C'est pas encore confirmé parce que malheureusement, il y a récemment eu un changement de direction entre la télé publique. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un changement, tout peut changer. Mais les rumeurs indiquent que c'est très probable que ce soit ça la sélection. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique. C'est les programmes des hits. C'était, si vous avez suivi, ça avait été un programme avec beaucoup de succès en Irlande l'année dernière. Et l'Irlande voulait l'utiliser cette année. Ou peut-être être un peu à l'air tout à l'heure de l'Irlande, mais l'Irlande voulait l'utiliser pour choisir la chanson de 2015. Finalement, ils ont décidé de faire autrement. Voilà. Je vous explique rapidement à quoi ça consiste. C'est un programme où, en fait, c'est la chanson qui est importante, pas tellement le chanteur. Donc, en gros, on reçoit des chansons et dans chaque programme, il y a 6 chansons pour chaque chanteur. Enfin, les chanteurs, c'est des chanteurs invités. Si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure qui c'est. Mais eux, ils ont des choix entre 6 chansons qu'on va leur proposer et ils vont finalement, à la fin du programme, ils vont choisir une qu'ils vont interpréter. Donc, les deux chanteurs chanteront les chansons et celle qui aura vendu plus de disques dans la semaine passe à la finale. Donc, la finale sera avec les chansons les plus vendues et celle qui vend les plus, bah, c'est celle qui gagne le concours des hits. Là-bas, parce que c'est un vrai hit, un tube. Donc, j'ai dit que c'est intéressant parce que les personnages que la télé espagnole a appelés sont des gens de très connus, tous, mais il y en a beaucoup qui sont eurovisuels en plus. Donc, parce que il y a, attention, Pastora Soler, notre chère Pastora Soler, il essaiera, imaginez-vous s'il peut décider d'aller à l'Eurovision l'année prochaine, ça serait trop drôle. Il y a Rosa López de 2002. Rosa López n'a pas les succès actuellement, ça serait une bonne chose pour lancer sa carrière. Elle a l'Eurovision l'année prochaine, attention. Il y a Sergio Dalma, il gagne les 91, que je n'aime pas, mais j'adore. Il y a David Bustamante qui était choriste de Rosa López aussi. Il y a le groupe qui est vraiment à la mode en Espagne actuellement, c'est Aurin. Si vous vous souvenez, il a fini deuxième dans la sélection 2011. Il y a Melendi qui est l'ex-mari de la dame qui était cette année en sélection Eurovision. Antonio Carmona est celui qui a composé la chanson des 96. Marta Sánchez qui est une espèce de Ana Vici à l'espagnol. Hyper connu, bah, vraiment c'est des gens top, donc vraiment ils sont presque tous en relation avec l'Eurovision, parce que même Marta Sánchez a présenté le jury Eurovision, enfin on ne sait rien, mais en Espagne aussi, et même ça
je crois que même qu'il y a la dame pipi qui s'occupait du concours 89 qui va se présenter.
Non mais vous rigolez, mais avoir ces artistes dans un programme télé, c'est pour moi, j'espère pas me tromper, mais c'est presque indicatif d'un succès.
Aitor, moi je trouve que le concept est intéressant, celui de choisir la chanson qui vendra le plus de disques. Je trouve que c'est vrai que c'est original. Ce que je n'aime pas beaucoup, c'est toujours le concept plusieurs chansons sur un seul artiste. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a jamais plu.
C'est pas ça. En fait, dans chaque programme, il y a deux chanteurs, mais chaque chanteur va chanter une chanson. Donc finalement, ça va être un duel entre des chanteurs connus espagnols.
Mais vous chantez la même chanson ?
Non. Justement pas. Non, c'est des chansons.
Chacun une chanson, en fait.
Donc en gros, et dans les programmes, je pense que ça doit être fait genre, j'ai pas vu le programme, mais ça doit être fait une espèce de reality show où on voit tout ce qui se passe derrière avant d'y arriver, parce que c'est à la fin que tu découvres la chanson qu'ils ont choisie, tu vois. Donc c'est un news, parce que c'est déjà des chanteurs Eurovision qu'on va avoir l'occasion de regarder à la télé espagnole pendant plusieurs semaines, c'est déjà bien, et si en plus c'est pour choisir une bonne chanson pour l'Eurovision, bah tant mieux. Donc on passe au pays suivant, et c'est
Israël, le pays suivant. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine, on a bien failli ne pas avoir Israël non plus. Difficultés financières d'IBA, restructuration en cours, et puis les derniers résultats au concours faisaient craindre aux fans qu'Israël se retire. Il n'en est rien, Israël sera à Vienne, et pour les représenter, ce sera a priori le gagnant de Rising Star, qui, si ça a été un échec en France, était un véritable succès dans son pays d'origine, Israël.
Ok, très bien. Bon, moi je vais vous parler de la Moldavie. La Moldavie qui a vécu une année 2014 extrêmement difficile, puisque pour la deuxième fois de son histoire eurovisionnelle en 10 ans, c'était seulement la deuxième fois qu'elle échouait à se qualifier pour la finale. Donc Christina Scarlat va passer la main. La finale est prévue le 28 février. Globalement, ce sera à peu près le même format que l'an dernier. La petite différence, c'est que cette fois-ci, les artistes étrangers pourront concourir. Donc plusieurs chansons pourront être proposées par un artiste, mais en cas de sélection, il devra faire le choix d'une seule de ces chansons qu'il interprétera dans une émission télévisée, sélection nationale classique.
On part en Irlande, changement de système donc pour l'Irlande en 2015, ils hésitaient avec deux hits, il n'en sera rien. Out les mentors qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est par une sélection ouverte que la RTE a reçu environ 300 candidatures. Il n'en restera que 6 pour leur Eurosong 2015 et le choix final sera fait par un mix télévote et jury.
Ethan, est-ce qu'on aura droit à avoir Lina Martin encore en finale ?
Nous n'en savons rien. Elle n'aura pas le rôle de mentor, mais elle sera peut-être dans le jury. On aura peut-être de grands moments de télévision comme l'an dernier.
Nous allons maintenant en Europe centrale, dans un pays qui marche plutôt bien ces dernières années à l'Eurovision. Il s'agit de la Hongrie. Le programme ADAL, qui permet de sélectionner le candidat hongrois pour l'Eurovision, en a été à sa troisième édition en 2014. Et les résultats étaient plutôt satisfaisants. Trois éditions, trois qualifications en finale, une cinquième place, une dixième place. Bref, on reconduit le format ADAL pour la quatrième fois. La date de la finale n'est pas vraiment arrêtée, donc on est un petit peu en attente sur la Hongrie.
Et ben on va partir dans le pays hôte, l'Autriche. L'Autriche qui opte en 2015 pour un format assez surprenant. Ils seront 20 candidats pour le premier show télé programmé le 20 février. Un jury va n'en garder que 6. Une semaine plus tard, nous devrions avoir droit à une démonstration vocale de leur talent, nous annonce-t-on. Le 6 mars, chacun d'eux nous interprétera deux titres possibles. Les jurys, j'imagine, puisque l'émission ne sera pas en direct, choisiront pour chaque candidat la meilleure chanson. Et enfin, le 13 mars, les téléspectateurs pourront associer leur voix à celle des jurys pour choisir leur représentant en 2015. C'est bizarre comme concept, moi je trouve.
Oui.
Est-ce qu'ils porteront la barbe ou pas cette année?
Oh, il y a de fortes chances pour qu'il y ait quelques poils.
Mais pas autant bizarre que la télé suisse. Alors, que la sélection suisse, pardon, qui aura lieu le 31 janvier 2015. L'émission s'appelle Die große Einsteindung-Show. Si on comprend bien la configuration de la Suisse, c'est qu'on a les trois télévisions, la télévision francophone, italienne et allemande. La télévision francophone sélectionne 6 candidats, la télévision italienne 3 et la télévision allemande 9. Chaque télévision va choisir un tiers de ça.
Il y a un jury qui sélectionne, je pense que c'est une audition, un truc comme ça, et on prend un tiers de chacun des télés.
Un tiers de chacun des télés, puis finalement on se retrouve avec 6 candidats pour la finale. Il y aura comme l'an passé, voilà. Pas de réaction sur la Suisse.
J'imagine qu'on fera un podcast sur la Suisse.
Bah oui.
Pour nos amis suisses.
On en fera un aussi pour l'Allemagne. L'Allemagne, donc la finale aura lieu le 5 mars et l'émission de télé, ça s'appellera Unser Song für Österreich. Donc, d'après les infos précieuses que m'a dit Hector tout à l'heure en off, donc ils choisissent des wildcards actuellement. Les demi-finales aura lieu le 19 février et on connaîtra les artistes en janvier.
Donc là, bon, vous avez constaté qu'on a parlé un peu des pays centro-européens là. Et voisin de l'Autriche, de la Suisse, et pas loin de l'Allemagne, et un Big Five aussi, c'est l'Italie. Donc on finit notre exposition sur les pays avec un de mes pays favoris aussi de l'Eurovision, l'Italie. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai pris pour moi. Il faut dire que.
Mais on n'a pas le droit de prendre la Finlande, l'Estonie, l'Islande et l'Espagne. C'est interdit, c'est réservé pour Aitor.
C'est mes pays. Donc l'Italie, je sais que Farocchi l'aime aussi beaucoup, hein, mais bon. Des fois, j'ai été laissé présenter l'Italie d'ailleurs au Junior. Mais bon, ça sera tout à l'heure. Donc l'Italie, il a vu les résultats de Mamarone, qui n'était pas si bien qu'attendu peut-être pour la Rap Ride. Ils ont décidé de revenir un peu à ce qu'ils ont fait les années précédentes, surtout en 2011-2013, de laisser les gagnants de Sanremo. Enfin, ces années-là, c'était pas forcément, c'était une chanteur de Sanremo, mais cette année, c'est vraiment les gagnants de Sanremo, pas les nouveaux artistes, mais les consacrés, qui aura le choix d'aller à l'Eurovision s'il le souhaite. S'il décide de pas y aller, alors la RAI se garde le droit de faire ce qu'il veut. Donc, finalement, on sait pas trop si on va peut-être se taper pour rien le Sanremo, ou pour rien non, jamais, parce que c'est magnifique, vous le savez, j'adore le Sanremo. Pour information, la finale sera le 14 février. Si vous voulez voir la demi-finale, vous savez, toute la semaine avant, et je sais que Stan passera toutes les nuits en train de regarder ça, c'est sûr.
Hein? Hors de question, même enchaîné, je ne regarderai pas le festival de Sanremo. C'est une horreur ce truc, ça dure des plombes. Oh, c'est insupportable.
Voilà, et donc j'ai voulu garder un peu pour la fin le meilleur. Non. Mais parlant de l'Italie, écoute un petit peu là.
The voting has finished and Italy on 159 points has won this competition.
Oui, finalement c'est l'Italie qui a enfin gagné le concours Eurovision, mais pas les seniors, les juniors. Bon, qu'est-ce que vous pensez déjà sur l'Eurovision, enfin sur ces chansons-là, mes amis, et puis sur les juniors en général, ça m'intéresse à voir. Alors,
bah, cette chanson-là est d'un inintérêt sans nom. Je comprends pas qu'il ait gagné, moi. Mais par contre, le concours était pas mal cette année. Moi, j'ai trouvé que ça s'enchaînait bien. J'ai particulièrement aimé le délicieux accent anglais de la présentatrice. J'ai trouvé que la vidéo d'intro était super. Et puis, les chansons se tenaient. C'était un chouette concours.
Ouais, c'est un concours pas mal. Se voit que l'Italie, c'est insignifiant. De toute façon, c'est un jeune qui gueule tout le temps. Il a dû prendre des cours par route Lorenzo, c'est pas possible. Mais il y a vraiment un pays, et je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Farouk sur la Bulgarie. J'espère qu'ils n'ont pas bradé une chanson qu'ils auraient pu donner aux seniors pour donner aux juniors. Parce que la chanson bulgare, qui est arrivée en deuxième position, elle est excellente.
Alors, moi, ce que je vais dire sur le junior, je vais mettre les pieds dans le plat. Bon, la chanson italienne, je la trouve effectivement assez ennuyeuse. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que pour ce concours, on est censé avoir des enfants qui votent, et je n'imagine pas une seconde les enfants voter pour cette chanson-là. Je pense qu'il y a eu une grosse magouille de l'UER visant à dire en gros italien, on vous aime, on veut que vous restiez à l'Eurovision, tenez, on vous fait gagner le junior, vous voyez... L'Eurovision aime l'Italie. Enfin, il y a un truc comme ça qui est pas clair. L'Italie qui passe en 11e position, la Bulgarie qui passe en 2e position. Je vous rappelle que l'ordre de passage est décidé par la production. C'est quand même, il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, la Bulgarie aurait dû gagner ce concours. C'était une chanson qui fédérait tout le monde, les adultes comme les enfants. Or, je ne vois pas du tout les enfants voter pour le petit Vincenzo. Cantiello, il a beaucoup de talent, mais la chanson est quand même chiante, à part les 30 dernières secondes, c'est vraiment d'un ennui total. Pour le reste, le classement se tient bien. En troisième position, on a la chanson de l'Arménie. Et j'ai envie de dire que la chanson, je trouvais que c'était une daube. Mais par contre, ils l'ont mis en scène magnifiquement. Et pour moi, cette troisième place est tout à fait méritée. En quatrième place, bon, il y a Malte. Bon, c'est l'effet pays organisateur. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. En cinquième, il y a la petite Russe qui est mignonne comme tout et qui bénéficie de tous les votes des pays de l'Est. Comme l'Ukraine en 6e place. La surprise finalement, c'est le classement assez bas des Pays-Bas. Je voyais moi.
Pays-Bas, c'est pour ça.
Ouais. Non, mais je les voyais plus. Je les voyais classés plus haut, en fait. Je trouve ça étonnant. Ouais. Mais c'était sympa ce concours. Mais des fois, un petit peu, ça criait quand même pas mal. Il y avait pas mal de fausses notes. Et c'est vrai que trop de petites filles, on est vraiment dans l'aigu. Hein.
Moi, je voudrais rebondir sur plusieurs choses, Farouk, avant de terminer le podcast. C'est que déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant de démarrer les votes, enfin, ça faisait partie des votes, évidemment, il y a eu un jury d'enfants qui a donné leur vote. Et vous savez qui a eu les 12 points des jurys enfants? des vrais enfants en fait qui étaient sur place, bah c'est l'Italie. Donc quand tu dis que tu vois pas les enfants voter pour l'Italie, c'est un des seuls 12, parce qu'il en a pas, il en a eu 4 ou 12, et c'est le un des seuls qu'il en a eu, c'est des enfants. Et j'y partage aussi la Bulgarie parce qu'on aimait tous les quatre, on adorait. Et j'ai remarqué, j'écoutais et lu des choses sur les chansons, et la Bulgarie s'est mis d'accord tout le monde. Et d'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, c'est la chanson qui a le plus de visites, après c'est l'Italie. Donc la Bulgarie, elle a gagné en popularité, elle a été félicitée par les présidents. Moi, je trouve personnellement qu'elle a un peu moins mal chanté, enfin pas mal chanté, mais un peu moins brillant que les vidéoclips. J'ai lu qu'il était malade, je sais pas si c'est vrai, mais moi les seules chansons qui m'ont vraiment mis, si j'avais été seul chez moi, je crois que j'aurais pleuré même parce que ça m'a ému, c'est l'Italie, ça vous le saviez, mais Malte. Moi, c'est Malte que j'aurais voulu voir gagner, parce que même si c'est pas une chanson pour les enfants, on est tous d'accord. Malte, ça a été brillant. On l'a revu dans la finale maltaise. Elle a été encore brillante. C'est Nana, j'ai voulu la voir à l'Eurovision Senior. Ça, elle est vraiment waouh.
Non, mais Aitor, c'est quand même un truc, et moi, ça ne passe toujours pas, c'est l'ordre de passage. Je suis désolé, mais quand tu mets un pays en deuxième position, tu le flingues.
Mais et pour moi, ça a été tiré au sort, ça, hein. Le premier première moitié, deuxième moitié a été tiré au sort. L'Italie n'a pas bénéficié d'un bon passage. Ils étaient dans la deuxième moitié, on leur a mis la 11e place. C'est pas forcément un bon point de départ.
Je trouve que c'est quand même un...
Moi, mais personnellement.
La deuxième place de la Bulgarie, c'est bizarre.
Mais c'est bizarre. Il pouvait être que de 2 à 8. De toute façon.
Non, mais l'UER s'est pas gêné pour mettre la Suède en 13e position et Conchita Wurst en 11e. Ce que je veux dire, c'est que faut arrêter.
C'est pas l'UER qui prend la décision, c'est la chaîne. C'est la chaîne organisatrice.
C'est pas possible. Ces ordres de passage écoutés par la production. Je reviens sur le sujet. Pour moi, c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. Et franchement, j'ai de plus en plus l'impression que tout ce qui se passe autour de l'Eurovision senior ou junior, ce sont des magouilles et qu'on est en train de voir se constituer une mafia.
Bah moi, excusez-moi, je suis pas d'accord, parce que pour moi, quand j'ai vu les classements, je suis d'accord pour la Bulgarie, mais pour moi, celle qui partait avec l'avantage à première vue, c'était Malte et les Pays-Bas. Quand j'ai vu les deux pays derniers, je me suis dit, parce que si vous regardez l'historique de l'Eurovision, on a vu l'Espagne finir deuxième en 2005 en chantant avant-dernière, et les Bélarusses gagner en étant dernier. Enfin, c'est pour dire que les Malte et Pays-Bas partaient pour moi, parce que c'était pour moi les chansons qui avaient les plus de possibilités, et pas l'Italie. La Bulgarie, c'est vrai que c'est étonnant, mais voilà, après.
Ce que je veux dire, c'est que la Bulgarie qui ressort le deuxième place, ça ne me dérange pas. Que ce soit la production qui l'y mette, c'est si ça me dérange. Bon. Et ça m'a fait penser à ce qu'on avait dit sur l'Eurovision Senior en 2014, avec le trio de tête. Il y a quelque chose qui va pas.
Non, mais moi je pense pas du tout que c'est dû au tirage, enfin à l'ordre de passage. Je trouve que c'est un classement justifié, le classement de l'Eurovision au bout du compte. Ils auraient chanté en l'Eurovision Senior, ils auraient chanté en n'importe quelle position, c'est les trois premiers, ils avaient le même classement final.
C'est là-dessus on n'est pas d'accord.
Non, parce que le Bélarus, même l'Ukraine qui aurait pu chanter en 12e ou 13e position, le résultat aurait été différent.
Non, je crois pas.
Ça n'en laissera jamais, monsieur.
Non, ça n'en jamais.
Mais moi, je sais que vous en foutez complètement. Mais moi, je voulais pas dire au revoir, c'est parce que moi, il y a deux qui m'ont beaucoup surpris en live. Les bonnes surprises pour moi, c'était Chypre, parce qu'il a été magnifique. Et moi, c'était qui m'a fait mal, justement, qu'il ait fini si bas, parce qu'il méritait vraiment d'être beaucoup plus haut. Il a été magnifique en live. Et après, voilà. Et est-ce qu'il m'a fait beaucoup rire, parce que j'attendais pire, c'était Samara. J'ai beaucoup aimé finalement.
Breaking my heart, you don't understand. Don't be
Moi, les Samaras, j'ai adoré en live. Mais si vous.
Mais tu mets ça qu'à tout le monde alors.
Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé très drôle. J'aurais voulu les voir mieux que les chansons de cette année de l'Eurovision, de. Comment s'appelle la chanson? Mais meilleur que Maybe pour moi.
Je crois que la pire horreur, c'était la croate. Hein.
Voilà. Par contre, j'ai une news à des dernières minutes à vous dire pour les Samaras, parce qu'on connaît le représentant des Samaras pour l'année prochaine, messieurs, dames. Et c'est précisément ce groupe des nanas dont je parlais là, les Peppermints. Mais il y en a une des nanas. Donc, c'est Anita Simontini, qui c'est la seule des cinq qui était des Samaras. Bah, la télé samarinaise l'a choisi elle. Hein, donc, voilà. C'est bien de, ça sera la première fois qu'on verra un junior et senior dans la même année, quoi, 6 mois après. Et va faire ses saisons le 14 avril. Okay. Et avec elle, il y aura le frère d'une autre Peppermint. Je vous avais dit déjà dans les podcasts sur les juniors qu'il y avait une chanteuse qui s'appelait Rafaela Perniola. Bah, son frère, Michel Le Perniola, qui chantait pour les juniors en 2013, si je ne me trompe pas, les juniors, oh, 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 sur l'Internet. Hein. Bah, lui aussi, il sera un couplet. Donc, voyez la nouvelle, hein. On aura des juniors pour les seniors, pour les seniors. Donc, il n'y aura pas Valentina Moneta, messieurs dames.
Oh!
Oh!
Mais à eux deux, ils ont quasiment l'âge de Valentina Moneta.
Non, ça fait plus jeune.
Non, ben, non. Ben, en même temps, on est de la même génération que Valentina Moneta. C'est pas contre elle. C'est juste que eux sont très jeunes.
Ils vont avoir 16 ans, les deux. Hein.
C'est ça, actuellement, ils en ont 15 chacun.
Bon, Michael, il a fait ses 16 ans en août, il me semble. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est le petit podcast, c'est devenu un long podcast, comme vous l'avez constaté. Donc, on va arrêter là. On va dire au revoir quand même avec la chanson. Quelle chanson vous préférez, l'Italie ou la Bulgarie? Alors,
la Bulgarie.
La Bulgarie.
Je savais.
On dit au revoir avec la Bulgarie, alors.
Alors, on a commencé avec l'Italie, on va finir avec la Bulgarie.
Oh oui, ils étaient trop marrants, Hassan et Ibrahim, sur leur piano, là. On aurait dû rendre Lloyd Webber.
Voilà, c'est parce que finalement, il a fini deuxième par juste 12 points. Et voilà, il aurait pu gagner, et il a gagné notre classement, donc on va dire au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Au revoir.
On dit au revoir et à très bientôt.
Tchuss. Ще бъде детска планета.